flavorful. It doesn't lose its flavor in cooking.
Welcome to Fox News World Head.
The great divide in American politics shows no sign of closing.
You think we're bad for America? You think I'm bad for America?
Quand on voit la polarisation politique aux États-Unis, on se dit que George Washington avait peut-être vu juste.
C'est vrai que le premier président américain avait prévenu dans sa lettre d'adieu au peuple américain en septembre 1796-96 « Je vous mets en garde de la manière la plus solennelle qui soit contre les effets néfastes de l'esprit partisan. »
En fait, George Washington n'appartenait à aucun parti et il pensait que le pays pouvait et devait s'en passer parce que, à ses yeux, les partis politiques ne feraient que diviser le pays.
Quand et pourquoi les démocrates et les républicains sont-ils arrivés? Pourquoi n'y a-t-il que deux grands partis aux États-Unis? On est là pour vous l'expliquer. Éric Guevara-Frey, journaliste spécialiste des États-Unis.
Et Jordan Davis, l'American Service.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington DC, par A plus B.
We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States.
Bon, l'esprit partisan n'a pas tardé à rattraper les jeunes États-Unis avec le deuxième président déjà, John Adams, membre du Parti fédéraliste. C'était le premier parti politique de l'histoire américaine qui n'existe plus aujourd'hui.
Bon, il a disparu depuis très 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 longtemps, mais son âme ressurgit parfois quand les juges de la Cour suprême ou les constitutionnalistes vont parler des Federalist Papers, les papiers fédéralistes.
How many of you have read the Federalist Papers, cover to cover? Here's a document that says what the framers of it thought they were doing.
Alors là, c'est une série d'articles rédigés par certains des pères de la Constitution pour défendre l'idée du document fondateur et d'en préciser les contours. Et ces articles permettent de mieux cerner les intentions des pères fondateurs.
Et à cette époque, il y avait déjà un clivage important, celui qui opposait les fédéralistes et les anti-fédéralistes. Les deux camps étaient d'accord sur la préservation de la liberté, mais pas sur les moyens d'y arriver. Les fédéralistes voulaient une constitution et un gouvernement central fort pour former une nation garante de la liberté. Les antifédéralistes pensaient au contraire qu'un gouvernement national fort détruirait la liberté à cause de dirigeants trop loin du peuple.
Et cette tension entre centralisation et décentralisation, ce clivage on le retrouve tout au long de l'histoire américaine jusqu'à maintenant.
Finalement, il y a eu compromis, les fédéralistes ont eu leur constitution et les antifédéralistes ont pu y faire ajouter presque immédiatement les 10 premiers amendements, c'est le Bill of Rights, qui inscrivent noir sur blanc des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, de religion et de presse.
Et ça c'est le premier amendement.
Et le droit de porter une arme.
Le deuxième amendement, le fameux.
Et puis le parti fédéraliste a perdu des plumes. À partir de 1800, il a été supplanté sur la scène politique américaine par son opposant, le parti républicain-démocrate.
Donc il fait rire aujourd'hui, mais ce parti ne voulait pas donc d'un État central trop fort. Il voyait les relents de la monarchie alors que la jeune république venait tout juste de s'émanciper du monarque britannique.
À la fin des années 1820, il a éclaté en plusieurs factions et c'est là qu'on commence à voir s'esquisser les deux grands partis qu'on connaît aujourd'hui.
Et c'est en 1828 que le Parti démocrate va prendre racine avec l'élection d'Andrew Jackson. Cet ancien général a gagné en se présentant comme le candidat anti-establishment, l'homme qui défiait les élites. Et son slogan à l'époque, c'était « Let the people rule », laissez le peuple gouverner.
D'où le nom « démocrate » pour le Parti du peuple. Les adversaires d'Andrew Jackson disaient de lui qu'il était un âne. Très bien, il a retourné l'insulte à son avantage en adoptant l'image de cet animal. Encore aujourd'hui, on utilise l'âne pour symboliser le Parti démocrate.
Et d'où vient l'éléphant pour le Parti républicain? Eh bien ça, on le doit à un caricaturiste qui voulait représenter la puissance du vote républicain qui semait la panique chez les adversaires.
Comme le Parti démocrate, le Parti républicain, surnommé GOP, pour grand vieux parti en anglais, est né sur les décombres de plus petits mouvements dans ce grand réalignement politique du milieu du 19e siècle.
Il vient surtout du Whig Party, qui défendait une politique économique volontariste, des grands projets d'infrastructure et la protection des minorités contre la tyrannie de la majorité.
As we know, American politics is dominated by two parties, the Democrats and the Republicans. But that wasn't always the case.
Et depuis lors, depuis plus d'un siècle et demi, ces deux partis dominent le paysage politique américain sans laisser la place à d'autres, on va y revenir, de grands partis comme de grandes coalitions qui absorbent à peu près toutes les revendications de la société américaine.
Et ça peut paraître un peu étrange quand on entend ça aujourd'hui, où les partis sont plutôt polarisés et assez homogènes, mais historiquement, les partis se considéraient comme un « big tent », un grand chapiteau, comme au cirque.
Step right up, get your peanuts, step right up into the greatest show on earth, the Republican Party Circus. Step right up, get your peanuts, the Republican Party Circus, step right up.
Et pour remplir les gradins, il faut ratisser assez large. Donc il y a souvent des courants parfois contradictoires à l'intérieur des partis, les démocrates conservateurs, les républicains progressistes, et ces courants doivent coexister.
Et la composition de ces coalitions, l'identité des partis vont évoluer au cours de l'histoire.
Surtout sous l'influence de certains présidents clés qui vont marquer ces changements de cap.
Oui, parce qu'aux États-Unis, le président du pays est vraiment le leader de son parti politique.
Alors donc, si on schématise, au moment de la guerre de sécession, les républicains, héritiers donc du parti Whig qui défend les minorités, les républicains vont devenir un parti globalement anti-esclavagiste, le parti donc d'Abraham Lincoln, alors que les démocrates, eux, vont être plutôt le parti des sudistes qui défendent l'esclavage, la supériorité de l'homme blanc. Et après la guerre de sécession, c'est surtout le parti qui va défendre les states' rights, le droit des États de discriminer les Noirs sans être inquiétés par le gouvernement fédéral.
Pendant plus d'un siècle, les démocrates continuent à capter le vote blanc dans le Sud, auquel il ajoute celui des immigrés blancs dans les villes du Nord.
Et puis le parti républicain, lui, est au début plutôt progressiste, et c'est aussi le parti des entrepreneurs et de l'élite anglo-saxonne protestante.
Et les choses changent, le positionnement idéologique des partis évolue. Au début du XXe siècle, face à la puissance d'une oligarchie industrielle et financière, des réformistes, qu'on trouve dans les deux partis, veulent donner plus de poids à l'État fédéral pour mieux contrôler les grandes entreprises et la distribution des richesses.
Nous ne sommes pas ici pour détruire les industries que ces hommes ont construites. But we are here to destroy the control over the industry of other people.
Le démocrate Woodrow Wilson gagne la présidentielle en 1912 et met en œuvre un agenda plutôt réformiste. Il va attirer dans le parti démocrate des progressistes, alors que le parti républicain va commencer à devenir plus le parti du monde des affaires.
Figures to show the gain in the average weekly pay envelope of workers in the great majority of our industries.
La Grande Dépression des années 30 scelle le positionnement du Parti démocrate avec le New Deal de Franklin Roosevelt, son grand programme pour remettre les États-Unis sur pied. Il fait considérablement grandir le gouvernement, grossir, diraient ses adversaires.
Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law.
Et puis, dernier changement fondamental intervient dans les années 60 avec l'adoption de la loi sur les droits civiques sous la présidence de Lyndon Johnson. Cette loi va mettre fin sur le papier à la ségrégation raciale et les démocrates du Sud vont voter contre.
Et à ce moment-là, le Parti démocrate devient un peu ce qu'on voit aujourd'hui, un parti essentiellement urbain, plus multiracial, qui se définit comme progressiste, mais il perd son ancrage chez les Blancs du Sud, au profit des Républicains, qui eux deviennent un parti conservateur, le parti de ceux qui veulent moins de gouvernement, moins d'État et plus de valeurs traditionnelles.
Et aujourd'hui, les choses bougent à nouveau, enfin c'est ce qu'on sent en tout cas, on l'a vu dans les dernières élections, et on est peut-être au début d'un nouveau réalignement des partis, on verra.
Oui, tout ce que Anne, Grégory, Raphaël et Sonia vous racontent depuis plus d'un an dans les épisodes réguliers de Washington DC, on va pas tout vous répéter ici, ils sont encore tous en ligne, là où vous avez trouvé le podcast que vous écoutez maintenant. Bon Jordan, on sait d'où viennent les républicains et les démocrates, on sait qui ils sont, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi il n'y a que ces deux partis qui dominent la politique américaine.
Et pourtant, des tentatives de lancer d'autres partis, il y en a eu. Il y avait le Parti du Peuple, on les appelle les populistes du fin du 19e siècle. C'est une sorte de populisme économique de gauche avec des penchants conspirationnistes aussi. Puis il y avait les progressives, les progressistes, comme on en a parlé en 1912. Mais ces revendications-là seront absorbées justement par les grands partis et le parti va disparaître très rapidement.
Un peu plus récemment, il y a l'exemple de Ross Perot en 1992. Tu te souviens de lui ?
Ah oui, j'avais 10 ans.
Bon, ce milliardaire texan avait fait campagne en essayant de séduire les déçus des deux grands partis et puis les adeptes de la rigueur budgétaire.
Tonight, Ross Perot, plain talk about jobs, debt and the Washington mess.
Good evening. We've talked a lot about the importance of having the American people fully informed so that they can make intelligent decisions as owners of this country.
Et surtout, il était connu parce que, je m'en souviens, parce que je l'ai regardé avec ma famille, ces plages de 30 minutes qui s'achetaient en prime time à la télévision, ce petit accent avec un accent à couper au couteau, et il montrait ses feuilles avec ses courbes pour parler de sa vision de l'économie. C'était assez révolutionnaire à l'époque, d'ailleurs.
But please, stay with me on this program tonight because we're going to go down in the trenches and talk about your jobs and talk about why our country is in decline.
Et en 92, Ross Perot, le troisième homme, a obtenu 19% du vote populaire derrière Bill Clinton et George Bush père. Mais surtout, il a eu zéro grands électeurs, donc au revoir. Et même aujourd'hui, il existe bien d'autres partis. Il y a les Verts, le Parti libertarien par exemple, mais ils restent marginaux à tous les échelons, même à l'échelon local.
Oui, parce que les grands partis sont assez contents, franchement, de maintenir leur position de duopole. Pour figurer sur les bulletins à la présidentielle dans les 50 États, c'est parfois très compliqué de ramasser assez d'argent, et puis il y a les signatures. En fait, et les démocrates et les républicains n'ont pas intérêt à changer les règles.
Bon, revenons à Ross Perot. Il a été candidat une deuxième fois en 96, en 96, mais il n'était pas invité au débat. Et pourquoi? Parce que la commission qui organise les débats présidentiels est gérée par les deux grands partis. Donc, Ross Perot a fini par faire 8% des voix en 96, en 96, après une campagne électorale invisible.
Et là, on parle beaucoup de la présidentielle, mais c'est la même chose au niveau local. Et puis, pour le Congrès, il n'y a pas de représentation proportionnelle. Donc, c'est quasiment impossible pour un petit parti de vraiment peser.
Oui, et là, ça devient un peu le serpent qui se mord la queue. On considère que les démocrates et les républicains sont les seuls partis sérieux. Les médias n'invitent donc que les démocrates et les républicains. Toute question est vue à travers le prisme démocrate versus républicain.
Et l'électeur va se dire, oh, voter pour un petit parti, autant jeter mon vote par la fenêtre. Cela dit, il y a parfois des personnalités locales qui arrivent à percer. Ce sont plutôt des exceptions à la règle en ce moment.
Bernie Sanders, par exemple.
Ben voilà, il a été longtemps indépendant, mais par exemple, dans le Sénat, il siège dans le groupe démocrate, et quand il se lance dans la présidentielle, il prend sa carte chez les démocrates pendant une année ou deux, en tout cas.
Jordan, si on parlait de Ross Perot, encore une fois...
Franchement, je pense que j'aurais jamais pu imaginer qu'on allait autant parler de Ross Perot dans ma vie.
Il a compté. Hein. En 1996-96, il a fondé un parti de la réforme, parti réformiste. Le parti a remporté son plus grand succès deux ans plus tard dans le Minnesota.
Now it's 1998 and the American dream lives on in Minnesota as we shock the world.
Jesse the Body Ventura.
Oui, c'était vraiment tout le contraire du petit Texan Ross Perot. Là, c'était une star du catch, une sorte d'armoire à glace.
Et il est devenu gouverneur dans le Minnesota avec à peine un peu plus d'un tiers du vote. C'est presque l'exception qui confirme la règle. Une forte personnalité qui a pu percer dans une élection où il y avait un vrai mécontentement.
Et puis le Minnesota, historiquement, c'est aussi le bastion de ces mouvements populistes, progressistes du 19e, début 20e siècle. C'est franchement un État qui aime bien avoir pas mal d'options.
Mais on peut dire que les deux partis institutionnels sont tellement dominants, leur structure, leur machine de levée de fonds, tout ça, qui est essentiel pour un candidat qui veut se lancer.
Et tu sais qui en est le meilleur exemple?
Dis-moi.
Most of this morning, Donald Trump.
Donald Trump. Mais il faut remonter à l'année 2000.
The New York businessman is considering a Reform Party presidential bid in 2000.
Parce qu'il pense ébriguer la nomination de quel parti?
Le parti de la réforme.
Ben voilà, la quatrième fois qu'on parle de Ross Perot dans cette émission, paix à son âme.
I've made my decision. I'm not going to be running.
Et en mars 2000, Donald Trump renonce. Le parti réformiste était miné par des conflits internes et surtout, Donald Trump pense que le parti est trop faible pour soutenir une candidature nationale. Il dit qu'il se porte candidat uniquement s'il pense pouvoir gagner, pas juste pour drainer 20% du vote.
Et quand il s'est lancé en 2016, il a visé directement l'investiture d'un parti traditionnel, le Parti Républicain, et la suite on la connaît.
Bon, sauf si on a été dans le coma ces 5 dernières années. Hein.
Oui, c'est vrai, bon, si c'est votre cas, je vous conseille de remonter à l'épisode 1 de ce podcast.
Thank you and good night.
Washington DC, par A plus B. Réalisé par
Sandro Lichy.
I'm Jordan Davis and I approve this podcast.
Je suis Eric Guevara-Frey et j'approuve aussi ce podcast.